Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des forteresses.
Qui passe du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi. Mon être
ébrisé. Bien, alors, si vous avez vos Bibles, je vous propose d'ouvrir dans le livre des Nombres au chapitre 11. Livre des Nombres, chapitre 11. Livre des Nombres, chapitre 11, verset 1er, on va le lire, je vais le lire aujourd'hui parce qu'on va essayer de voir comment on peut gérer le temps. Bon, chapitre 11 du Livre des Nombres, hein. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabera parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien aux yeux. » Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner ? Où prendrais-je de la viande pour donner à tout ce peuple ? Car il pleure auprès de moi en disant, « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne puis, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de nous, et parce que vous avez pleuré devant lui en disant « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ?» Moïse dit « 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis « Je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. » Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez ? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez ? L'Éternel répondit à Moïse « La main de l'Éternel. » Serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Remarquez que là, Dieu ne le condamne pas, il dit, tu verras. Il est en formation. Plus tard, quand il frappe le rocher, il dit, maintenant, tu n'iras plus au pays de Canaan. Vous voyez, Dieu serre la vis. Mais, tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui est sur lui et il le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit déposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, Eldad et Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoique ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Alors Moïse touche au fond son cœur et dit, Moïse lui dit, es-tu jaloux pour moi es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères, ils les étendèrent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce nom le lieu de Kibroth Hattaava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth Hattaava, le peuple partit pour Hatzeroth, et il s'arrêta à Hatzeroth. J'aimerais rapidement, mais quand même, mettre l'accent au travers de ce chapitre sur quelques points qui vont refléter un peu la vision de ces rencontres. Je le rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de ces rencontres, c'est « si tu veux aller loin ». C'est pas dit « si tu veux être un chrétien qui ne change pas, qui n'avance pas, qui porte pas de fruits », c'est « si tu veux aller loin ». Donc ça, c'est le prix. Et je voudrais que vous ayez dans votre cœur la vision générale de la façon dont Dieu travaille. Parce que si on comprend pas ça, on va être ballotté dans notre vie et dans nos objectifs. On voit dans la méthode de Dieu ou dans la façon dont Dieu travaille dans la vie et dans le peuple d'Israël et dans le monde, on voit que Dieu projette une vision, Dieu fait des promesses. Prenons le cas d'Abraham. Dieu lui dit, voilà, tu auras une postérité. Rappelez-vous l'alliance d'Abraham avec Dieu, il change son nom, etc. Il lui promet une postérité aussi nombreuse que le sable des plages, que les étoiles du ciel. Il lui dit qu'il lui donne le pays de Canaan. Ok, ça c'était merveilleux, c'est semblable aux promesses que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Mais avant que la promesse se réalise, le peuple a passé 400 ans en Égypte et dans la captivité. La vision générale est positive, le chemin pour y arriver est difficile. Nous devons comprendre ça fait partie de la pédagogie de Dieu. Il faut enlever de nos crânes la pensée que si Dieu nous fait des promesses, sur le chemin tout va baigner dans l'huile. C'est pas vrai. Parce que pour y arriver, il y a un travail que Dieu doit faire en nous et aussi extérieur à nous et ça pose des difficultés. Donc, promesse faite à Abraham, ok, mais en tout cas, avant qu'elle se réalise, il y a eu la captivité en Égypte, il y a eu la marche dans le désert à la sortie d'Égypte, il y a eu les luttes pour entrer dans Canaan, il y a eu les luttes pour prendre Canaan, et il y a eu les luttes intérieures et les luttes extérieures. En un mot, le plan que Dieu a pour votre vie, les promesses que Dieu a vous donné, va vous donner, il faut comprendre qu'entre la fin et le départ, il y a tout un chemin qu'il faut accepter et que beaucoup rejettent. Le deuxième point, regardez, Dieu envoie Moïse en Égypte en lui disant, va, j'ai entendu les souffrances de mon peuple, et Dieu dit, voilà, je vais t'envoyer dire à mon peuple que maintenant je vais les sortir d'Égypte et ils vont aller vers le pays où coule le lait et le miel. Tout le monde en veut, hein, le plein évangile, la délivrance, le marche en avant, les victoires, les dons. Ça, c'est ce qui nous appartient. C'est notre héritage. C'est à nous. Mais avant d'y arriver, qu'est-ce qui se passe? Avant d'y arriver, eh bien, Moïse qui vient, les gens doutent, il fait quelques miracles. Rappelez-vous, la main dans la poitrine, le bâton qu'il jette qui devient un serpent. Et alors le peuple est content. Ils entendent des promesses. Et quand vous recevez une promesse du Seigneur, vous êtes content. Mais il y a l'après-promesse, l'après-prophétie. Et là, Pharaon, on voit, chose étonnante, Pharaon bloqué, verrouillé les choses, Dieu est alourdir la tâche des Hébreux, leur mettre plein de travail sur le dos. Je crois qu'aussi notre société, c'est ça, ne cassez pas le travail pour qu'on pense plus aux autres choses ou qu'on soit fatigué pour les choses de Dieu. Eh bien, Pharaon va appesantir et qu'est-ce qui se passe? Le peuple qui s'était réjoui, ah oui, quand ils ont entendu le message de Moïse, Dieu nous visite, alléluia. Et quand ils ont vu le verrou de Pharaon, ils se sont découragés. Et quand ils prennent des coups par Pharaon, ils disent à Moïse, mais on t'a pas cherché, hein, tu nous as donné un faux espoir, qui es-tu, comment ça se fait, regarde, juge toi-même le résultat de ta démarche. Et puis ensuite, vous avez également, donc vous avez le découragement, la persécution de Pharaon. Ok. Et puis vous avez les 10 plaies d'Égypte, le crescendo entre la confrontation de Pharaon et derrière tous les démons, toutes les dominations, toutes les principautés, idolâtrée en Égypte et dans la religion égyptienne et dans le monde égyptien, vous avez la confrontation dans laquelle, chaque fois, Dieu juge une des divinités en action. Quand il frappe le Nil en eau, en sang, eh bien, c'est une divinité. Quand il fait venir les crapauds, c'est une divinité. Vous devez comprendre que Dieu expose devant tous que c'est lui qui commande et non pas les démons et non pas les idoles. Alors, bon, ensuite, donc, Dieu fait sortir le peuple par des prodiges pour Canaan. C'est formidable. Rappelez-vous le passage de la mer Rouge, hein. Et quand ils voient tout ça, ils disent, ça y est, on est débarrassé. Et je pense qu'ils chantaient, d'ailleurs, chantaient des cantiques, Marie, tout ça, les tambourins. Alléluia, l'éternel est Dieu, patati, patata. Hein, c'était formidable. Mais vous remarquez, allez, en route vers le pays de Canaan. Ils sont en route. Ils comprennent pas toujours l'itinéraire. Ils comprennent pas très rapidement l'itinéraire que Dieu leur fait suivre. Et puis ils ne comprennent plus. Pourquoi, à un moment donné, alors qu'ils ont vu la gloire de Dieu, qu'ils ont vu les miracles, qu'ils ont vu les prodiges, plus d'eau quand ils en ont besoin, plus de pain quand ils en ont besoin, plus de poireaux, plus d'oignons, plus de trucs et plus près, le désert. Le désert. Avant de pouvoir entrer en Canaan, ils connaissent le désert, ils connaissent les murmures, ils connaissent la mort. Avant d'arriver au but de votre vie, avant que nous arrivions, il y a des saisons de Dieu. Israël a vécu des saisons et je crois que nous aussi, dans notre église, n'avons vécu un passé, il y a un présent, mais je crois qu'il y a une préparation pour une saison d'avenir. Il y a des saisons de Dieu pour un individu, pour une famille, pour une communauté, pour le corps de Christ. Eh bien, avant d'arriver au but dans notre vie, dans notre assemblée, dans l'accomplissement des promesses ou de la vision, nous devons absolument, si nous voulons arriver au but, pour notre vie, notre foyer, notre famille, notre vocation, l'église dans laquelle nous sommes, l'œuvre de Dieu dans laquelle Dieu peut nous envoyer, eh bien, il faut absolument envisager, pour ne pas en être détruit, il faut envisager ces temps de désert. Ces temps de désert. Vous savez, Moïse dira plus tard à Israël, Dieu vous a fait éprouver la faim, la soif, afin de savoir ce qu'il y avait dans votre cœur. Faites aucune illusion. Dieu sait ce qu'il y a dans votre cœur. Mais ces choses sont là. Nous passons dans la fournaise des adversités de la vie pour ce qui est caché ou inconscient souvent au fond de nous vient à la surface. Dieu, ça confirme, bien sûr Dieu, mais c'est également pour que, à ce moment-là, l'action de Dieu puisse se faire. Jésus dira, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Je voudrais dire que la vie chrétienne, bien comprise, c'est pas une vie à l'eau de rose où tout est facile. C'est un chemin de persévérance, c'est un chemin de ténacité dans la mort, à soi, dans le renoncement, avec foi en Dieu pour la vie de résurrection qui suit. Seul l'amour pratique pour Dieu, je précise bien, et le désir de le servir coûte que coûte, nous permettra d'arriver au bout. Si vous n'avez pas, si vous ne veillez pas, si parfois on baisse les bras dans la souffrance, dans les difficultés, dans les échecs apparents, ou même dans les échecs réels, même parfois dans nos chutes, parce que on ne pratique plus le péché, mais ça peut arriver. Mais nous vivons dans la foi, dans la justice de Dieu, nous savons revenir, nous savons nous repentir, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous aimons plus profond de nous-mêmes le Seigneur. Nous comptons sur sa grâce, nous comptons sur son amour. Mais c'est parce que envers, malgré et contre tout, je l'aime. Vous savez, quand Pierre, rappelez-vous, franchement, il faut le faire. Je me suis toujours posé la question, je me suis toujours dit, le problème, c'est pas tellement le pardon de Dieu, le problème, c'est le pardon des hommes. Si vous avez le malheur de vous casser la figure, les gens vous ratent pas et les chrétiens vous ratent pas. Et quand vous pensez un peu Pierre, quand vous pensez Pierre, écoutez ce gars-là qui aimait le Seigneur, qui était tout, eh bien, ce fameux Pierre, à un moment donné, il blasphème en niant absolument connaître Jésus. Je sais pas si vous réalisez, devant tout un aéroport, devant toute une équipe de gars, de soldats, de servantes dans la maison du chef de Sanhédrin, eh bien, il blasphème, il dit, je connais pas Jésus, en un mot, il ment ouvertement et comme on le croit pas, il blasphème. Je sais pas si vous réalisez la culpabilité qu'a pu avoir Pierre après. C'est quelque chose d'horrible. Il aimait Jésus et puis c'était trop fort, il a craqué. Et quand Jésus savait, vous savez, parfois vous êtes tellement sous un esprit de condamnation, vous êtes cuit. Jésus va lui apparaître ou va l'appeler. D'abord il dira, dites à Pierre, personnellement. Bon, ça voulait dire, Pierre, je t'ai pas oublié. Et puis ensuite, devant le lac, il dira, devant les brasereaux à la pêche, dans la nuit, il dira, mais Simon, tu m'aimes? Trois fois, parce que Pierre l'a renié trois fois. Vous savez, ça devait être autant de coups de poing. Mais chaque fois que Pierre dit, tu sais que je t'aime, Jésus le restaure dans son ministère et lui dit, paie mes brebis, paie mes agneaux. Mais ce qui est intéressant, je le rappelle très vite, c'est ça, c'est que Pierre avait vraiment, il avait vraiment chuté, c'était méchant, un blasphème. Et qu'est-ce qu'il a sauvé? Ses paroles. Pas ses paroles, mais ce qui était au fond de ses cœurs, que ses paroles exprimaient. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Aussi longtemps que vous avez de l'amour pour le Seigneur, personne, rien, ni personne ne peut vous ravir, ne vous séparer de l'amour de Dieu. Et quelqu'un qui a péché contre le Saint-Esprit, vous savez ce que c'est le révélateur, c'est pas le mal qu'il a pu faire. Le révélateur, c'est qu'il est devenu froid, mort, insensible à l'amour de Dieu. Ça, c'est tragique. Si le grain de blé ne meurt. Donc, nous apprenons dans ce désert, nous apprenons la fidélité, la persévérance, l'état de notre cœur, hein. Mais aussi, il faut le reconnaître, le combat spirituel. Le combat spirituel en nous-mêmes, parfois contre nous-mêmes, et le combat spirituel, bien sûr, contre les dominations, les principautés, les esprits méchants. Alors, prendre quelques points de ce chapitre 11, dans cette vision générale, je le rappelle, pour aller au but, vous avez des promesses, vous avez une certitude, ce qu'il faut veiller, c'est garder l'amour de Dieu. Parce que cet amour de Dieu pour nous a pour résultat cet amour de Dieu en nous pour lui. C'est parce qu'il nous a aimé le premier que nous l'aimons en retour. C'est le thermomètre. Jésus dira à l'église, parce que tu as perdu ton premier amour. Ne pas oublier, quand vous sentez que vous n'avez plus le premier amour, c'est qu'il y a des pompiers là qui ont étendu et qui ont essayé d'éteindre. Là, il faut revenir. Le premier amour, c'est le zèle. Le zèle de ta maison me dévore, est-il dit de Jésus. Et c'était ça qui a permis même aux apôtres de donner leur vie plus tard. Mais si par l'usure de la vie, par les combats de la vie, par les tentations, par les convoitises, par tout ce que tu laisses ça descendre, excuse-moi, tu seras un chrétien très sympa, mais tu auras raté ta vocation. Alors, prenons les murmures. On voit les murmures au verset premier de ce chapitre 11. Les murmures, c'est quelque chose de... hein, qu'on entend constamment dans le peuple de Dieu. Vous savez ce qui est, les choses d'Israël nous sont rappelées comme un enseignement, dit Paul, une instruction pour nous. Et vous remarquez que les murmures ont entraîné la colère de Dieu. Les murmures n'ont pas entraîné le caressé selon le poil. Les murmures du peuple d'Israël, parce qu'ils avaient vu la gloire de Dieu, ils ne lui ont plus fait confiance, ils n'ont pas accepté le chemin difficile du renoncement par lequel il leur faisait passer. Ils ont murmuré. Et Dieu s'est mis en colère. De la même façon que Dieu se met en colère quand Moïse refuse d'aller. Dieu lui dit, maintenant tu vas aller en Égypte. Il dit non, envoie un autre. Je sais pas parler. Alors Moïse, Dieu lui dit, mais c'est moi qui fais la bouche, c'est moi qui fais l'oreille, c'est moi qui fais la langue. Alors, moi j'y arriverai pas, envoie un autre. Alors Dieu, il passe à deux, mais écoute, il y a ton frère cadet Aaron, lui il parle beaucoup, alors on parle bien. Alors bon, tu vas être Dieu pour lui et lui va être ton porte-parole. Moïse dit, non, envoie un autre, moi c'est fini. 40 années premièrement, 40 années après, il est cassé, c'est là qu'il est bon pour le service. Et là, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que Dieu se met en colère. Quand tu refuses d'entrer dans la vocation de Dieu, tu tombes sous la colère de Dieu. C'est extrêmement important. Et vous remarquerez même que la nuit, alors qu'ils sont en route, Moïse servait, Moïse était envoyé, Moïse était appelé, Moïse n'avait pas circoncis son fils. En un mot, il n'a pas fait respecter à la maison. Dieu lui demandait d'établir dans le peuple d'Israël. Et il nous a dit que Dieu a voulu le faire mourir. Il faut nous enlever d'une certaine sentimentalité qui n'existe pas. Pourquoi est-ce que Dieu est si sévère pour ceux qu'il appelle et pour sommes tous appelés pour quelque chose? Pourquoi Dieu est-il si sévère? Parce que nous n'avons pas seulement un témoignage individuel à rendre pour nous-mêmes ou à vivre avec Dieu pour nous-mêmes, mais nous sommes responsables également des conséquences de notre influence sur les autres. Et nous passerons devant le tribunal de Christ, nous passons pour deux choses, pour notre propre vie et pour l'influence, le témoignage positif que nous aurons produit chez les autres. N'oubliez jamais ça. Et Dieu a voulu faire mourir Moïse, parce que sa femme s'opposait, ne comprenait pas spirituel, elle bloquait. Et lui, pour la paix du ménage, a cédé. Tu veux faire attention, le rôle d'un homme est extraordinairement fort. De temps en temps, nous aurons le matin, certains dimanches matin, nous aurons pris pour les hommes, enseignement pour les hommes, je demanderai à ma femme de prendre les femmes d'un côté, un dimanche de temps en temps, pour vraiment parler de ces choses-là. Donc il faut, alors je continue, il y avait un autre point encore, le ramassis. Rendez compte, dans cette nation d'Israël, sortie à main forte par Dieu, il y a un ramassis qui est là-dedans. Et je suis désolé, le mot ramassis est un peu péjoratif, mais il faut que vous sachiez que dans l'Église aussi, il y a des gens qui sont là, ils sont pas nés de nouveau, ils sont là parce qu'ils ont vu, ils ont entendu, parce qu'il y a certaines choses, etc., pour différentes raisons, je n'ai pas le temps d'insister. Ils sont là, mais vous remarquerez qu'eux ont commencé à mûrir, bien sûr, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Donc, mais ce qui était tragique, c'est qu'ils commençaient à infecter les Israélites. Le problème du ramassis, il est là, vous ne pouvez pas changer, vous ne pourrez pas tout arranger, vous aurez toujours des gens au milieu de nous qui viendront, faux convertis. Rappelez-vous Ananias, Saphira, rappelez-vous d'autres qui des fois viendront, auront l'apparence du langage, mais distilleront par leurs trucs, par leurs murmures, par leurs convoitises, montreront un mauvais exemple et infecteront d'autres chrétiens. C'est extrêmement important. Et puis vous avez ensuite, oui, mais on n'a pas de poireaux, on n'a pas d'oignons, etc. Les souvenirs et les tentations d'autrefois. Et là, je voudrais comprendre. Quand Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, vous devez comprendre que vous et moi, nous vivions dans le monde. Et le monde offre des choses très agréables. Vous devez comprendre, c'est normal, hein. On a vécu, on a des intérêts, l'argent, les prix, les biens, etc. On n'avait pas de limite, ou plutôt c'était notre raison de vivre. Le monde offre des choses agréables. Mais ce que je voudrais dire, et ça, ces gens-là se sont rappelés, tous les avantages qu'ils avaient en Égypte. Là, ils ont que de la manne, mais ce qui était dangereux, c'est que cette manne était ce que Dieu avait prévu pour eux. Mais eux se rappelaient tous les avantages qu'ils avaient par rapport aux petits Israélites dans le désert. Ils se rappelaient tous les avantages qu'ils avaient dans le monde. On avait ça. Et vous retrouvez le même problème dans le peuple de Dieu. À un moment donné, quand il perd la vision, quand il perd son engagement, les vieilles convoitises reviennent. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Il change la doctrine. Et vous avez alors doctrine de la prospérité. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois ceci. Dieu veut que tu sois... En Jésus-Christ, tout a été accompli pour que tu baignes une joyeuse et brillante vie avec la grâce de Dieu. Alors que vouloir arriver à l'objectif, à l'accomplissement du plan de notre vie, et je voudrais, c'est justement accepter
de renoncer volontairement à ces avantages que le monde vous donne.
Il nous a dit que Moïse, hein, il avait toute la rémunération, fils de la fille de Pharaon, il avait tout, il a regardé ça comme une perte. Il aurait pu l'avoir. Et ces gens-là se rappellent tous les avantages qu'ils ont eu, ils ont été réamorcés.
Alors je voudrais dire, si nous voulons arriver au but de notre vocation, il faut accepter de renoncer. Bien souvent, c'est pas une doctrine, c'est selon que Dieu nous fait marcher en avant. Il nous faut accepter de renoncer à bien des avantages et choses qui nous aidaient ou qui nous satisfaisaient autrefois. Un salaire peut-être moindre, parce que ça me donne plus de temps pour m'occuper des choses de Dieu. Un logement plus simple, parce que si j'investis dans le loyer ou dans un truc, je peux être handicapé pour le reste. Des amis qui nous distraient ou qui nous entraînent loin, ou je peux choisir, je suis obligé parfois de renoncer à certaines amitiés parce qu'elles me sont négatives par rapport au feu de Dieu qui brûle en moi. Dieu en premier dans ma famille, Dieu en premier face à la famille, face aux conjoints, face aux enfants, face aux relations. J'ai dit Dieu en premier. C'est-à-dire que dans mon cœur, je dois savoir quand Dieu me demande mon Isaac, quand Dieu me demande tel ou tel boulot, quand Dieu me demande tel ou tel loisir, quand Dieu me demande telle ou telle affection qui m'est chère. Dieu en premier. Écoutez, je n'invente rien. Jésus lui-même, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, ses enfants, vous rendez compte? C'est horrible. Ça ne veut pas dire qu'il faut mépriser, ça ne veut pas dire qu'il faut pas les aimer dans le domaine, puisque la parole de Dieu dit qu'il faut prendre soin des siens. Mais lorsque, dans la famille, Audrey, quelqu'un entrave votre priorité envers Dieu, alors il nous a dit encore ceci, hein. Il y a encore ceci, donc, qui a renoncé. Parfois, il y a des investissements qui doivent être ciblés dans notre vie, de notre argent, de notre temps, de nos objectifs. Tu ne peux pas arriver, je ne peux pas arriver à marcher pleinement avec Dieu si je n'accepte pas, dans la marche avec Dieu, lorsqu'il me le demande, de renoncer à certaines choses que j'avais avant. Mais le vrai chrétien, la vraie prospérité, c'est quoi? C'est justement lorsque je n'ai plus rien et que j'ai tout de Dieu. Mais la Bible donne des promesses. Elle dit que Dieu ne nous abandonnera pas. Mais parfois, Dieu peut permettre le désert dans votre vie comme dans la mienne. Et nous devons regarder ça en face. Ensuite, on va au verset 11. Dieu, Moïse, fut attristé. Ça veut dire qu'il a fait de la déprime, le gars. Rendez compte, 3000 personnes sur le dos. À un moment donné, sa sœur et son frère qui le jalousent, des anciens des princes qui militent au sein du truc, qui prennent la place d'opposants, jusqu'à 200, 300 responsables dans le conseil du peuple. Vous rendez compte, c'était pas la population, c'était des chefs du conseil d'administration qui t'a établi. Pourquoi t'as mis Aaron? Et nous alors? Le combat de chef.
Moïse fut attristé, dépassé, déprimé, tout ce que vous voulez. Et je voudrais vous dire, pour vous encourager, ça vous arrivera aussi. Ça vous arrivera aussi, ça fait partie du bagage. Et là, déprimé, dépassé, il dit, mais oh, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui ai voulu être le chef de ce truc-là, c'est pas moi. Le véritable appel de quelqu'un, c'est pas moi qui ai envie de servir Dieu. L'appel, l'objectif, c'est lui qui a dit, tu fais. Ah, il dit, mais c'est pas moi. Tu me mets un peuple, il pas facile, courroie, tout ce que tu veux. Mais tue-moi, puis on n'en parle plus, on est marre. Enfin, il n'a pas dit comme ça, ça c'est moi. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe?
Il a besoin d'aide humaine. Il n'a pas seulement besoin de l'aide de Dieu, c'est pas seulement le super spirituel, mais il a besoin d'aide humaine. Il a besoin, excusez-moi, on transpose dans l'église, conducteurs ont besoin d'aide.
Il a besoin d'être humain. Et Dieu lui demande alors au verset 16 de choisir et de rassembler 70 anciens. Et Dieu va promettre de mettre une portion de l'Esprit qui est sur Moïse, sur eux.
Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que Dieu fait vite encore? Pourquoi Dieu dit-il, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux? Pourquoi ça? Pourquoi n'a-t-il pas dit, je mettrai le Saint-Esprit sur vous? Vous devez comprendre l'enjeu dans lequel, justement, nous avons les plus grands défis aujourd'hui. C'est parce que Dieu sait que vous et moi, nous sommes des fichus indépendants, individualistes, et que notre relation que nous proclamons avoir avec Dieu est souvent une excuse pour éviter d'avoir à nous soumettre les uns aux autres dans le système communautaire. C'est simple. Et Dieu le sait, parce que, vous savez, il connaît la valeur du péché en nous, la nature du péché en nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je prends de l'onction qui est sur toi et je le mets sur eux. Il n'a pas dit, je mettrai de mon onction sur eux. Je prends de ce qui est à toi et je le mettrai sur eux. Pourquoi? Cause de cet esprit d'unité. Cause de cet esprit d'unité. Vous comprenez, c'est pas chacun qui va chercher un chef à droite, à gauche, au loin ou dans le corps de Christ aujourd'hui, etc. Ça vous fait plein de divisions. Le feu étranger, c'est aussi ça. Non, prends l'esprit qui est sur toi. Et je le mettrai sur un. Vous savez, quand on voit les gens, souvent on voit les gens de l'extérieur ont plus de poids. Moi, je dis pas, hein, on est loin d'être parfait. Je pense qu'il y a des ministères dans le corps de Christ qui sont extrêmement valables. Et que parfois on a besoin. Moi, personnellement, j'ai des relations avec certains ministères différents pour, quand j'ai un problème que j'arrive pas à résoudre, j'appelle. Ça, c'est tout à fait normal. Aucun n'est suffisant. Mais l'onction communautaire de la vie, la gestion d'une assemblée, la gestion de nos familles spirituelles ensemble, c'est comme la gestion d'une famille, l'onction qui est sur le père, à rejaillir sur les enfants. Je vais vous dire mon rêve, mais c'est un rêve. C'est un rêve, mais je pense que pour ceux qui le peuvent, il y a la direction de Dieu, il y a tout, mais mon rêve, c'est comme disait Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon rêve, c'est que les enfants de chrétiens devenus grands prennent en charge les plus jeunes. Mon rêve, c'est que le ministère ou la vocation ou l'identité du père, complétée par la mère, se développe et s'élargit au travers des enfants. C'est pas du paternalisme, c'est un patriarcat biblique. Et ça veut pas dire qu'il faut vivre toujours sur le même toit, c'est pas ce que je veux dire, mais spirituellement, l'onction que j'ai mise sur toi, j'en donne une partie à ton fils. L'onction que j'ai mise sur toi, j'en donne une partie à ta fille. L'onction que j'ai mise sur toi, je donne une partie sur les tiens. Et les tiens ne vont pas faire leur petit truc machin chacun de son côté, mais les tiens vont simplement élargir et compléter, c'est-à-dire ton onction à toi. Et la famille, la vocation d'une famille, c'est le père, plus la mère, plus les enfants. Et les enfants peuvent être envoyés à Tizi Ouzou, au Groenland, tout ce que vous voulez. S'ils sont envoyés par le Seigneur, c'est encore l'onction du père et de la mère qui est élargie. C'est pas une rupture, c'est l'élargissement. C'est un bras. L'œuvre missionnaire, quand les enfants ou des chrétiens vont à l'œuvre missionnaire, c'est le bras des parents qui est là-bas. Et c'est le bras au travers de, c'est le bras de l'église qui est là-bas. C'est pas une rupture. Mais quand chacun fait son petit truc à côté, selon ses petits intérêts, c'est fichu. Comprenez-vous là, je prendrai, a dit Moïse, a dit Dieu, de l'onction qui est sur toi et je la mettrai sur toi. Alors encore ceci, Eldad et Médad prophétisèrent. Dans le camp, il y a toujours des mauvais coucheurs. On les appelle, on leur donne un privilège, ils bougent pas. Vous savez, mais Dieu les connaît. Et parce qu'ils sont sur la liste, ils prophétisent. Et vous remarquerez la réaction de Josué. Seigneur, empêche-les, Moïse, empêche-les. Et là, vous pouvez comprendre, Josué a servi Moïse depuis des années. C'est lui qui s'est bagarré quand il était plus âgé déjà contre Amalek. Il a vécu avec Moïse, il a été avec Moïse sur la montagne. C'est un gars qui s'est laissé former à l'ombre de Moïse en servant. La véritable formation se fait par le service et non pas par la consommation. Alors, donc, il sert, il est serviteur. Il est là, mais quand il entend que les gars prophétisent dans le camp alors qu'ils sont même pas venus, il dit, Seigneur, empêche-les, Moïse, empêche-les.
Il est un peu jaloux pour lui-même. Il est jaloux pour Moïse, mais en réalité, il dit comment moi je bosse là aussi. Et parfois, c'est comme le frère aîné avec le fils prodigue. Parfois, eh bien, Dieu va bénir, écouter des gens ou des frères ou des sœurs au milieu de nous qui n'ont peut-être pas payé le prix apparent que nous on a payé. Alors, est-ce qu'il faut être jaloux? Mais non, il faut se réjouir. C'est là encore qu'on a besoin de transformer dans nos mentalités pour se réjouir de ce que Dieu souverainement bénit peut-être certains que nous, on dirait, il mérite pas ça, quoi. Ça, c'est Dieu. Mais Dieu fait, c'est ce qu'il fait. Alors, bon, un autre point encore. Le bras de l'Éternel a été trop court pour l'écaille. Hein. Vous voyez le crescendo. Là, Dieu ne rouspète pas après Moïse. Il comprend. Moïse est à un certain niveau de faim. Il dit, comment tu vas faire tous les poissons de la mer? Comment on va faire? Il n'est pas encore le Moïse à qui Dieu va dire, maintenant tu n'entreras pas dans le pays de Canaan. Il n'est pas encore là, au niveau intérieur. Il y a un crescendo dans la responsabilité de Moïse. Mais là, Dieu lui dit, tu vas voir. En un mot, votre vie, la mienne, se construit aussi sur l'expérience. Dieu va pas nous reprocher des choses qu'on n'arrive pas à croire. La foi, véritable foi, c'est pas une foi forcée, c'est pas de l'autosuggestion, c'est pas être craintif. Non, Dieu se met à notre niveau. S'il te l'a montré une fois ou deux fois, maintenant tu deviens responsable. Si avant tu n'y arrives pas parce que tu n'as jamais vu, Dieu va pas te le reprocher. Comme un père ne reproche pas à ses enfants d'apprendre à marcher. Mais une fois que tu marches, faut pas revenir à l'enfance. Et c'est ce qui s'est passé pour Moïse. Un exemple. Parce que comme je vous le rappelle, Moïse n'avait pas seulement son propre témoignage à rendre pour lui-même, mais il avait un témoignage à rendre face au peuple de Dieu qui le suivait. Alors, donc, le bras de l'Éternel est-il pas trop court? Et alors, bon, vous rassurez quand même ce matin, le bras de Dieu n'est jamais trop court pour nos vies. Aujourd'hui, nous sommes dans une saison spirituelle semblable, avec un objectif pour l'Église à atteindre. Face à la situation critique dans laquelle l'Église peut peut-être se trouver aujourd'hui, difficultés financières, cause de prêts, quoi qu'on en a plus que pour 3 ou 4 ans, cas de maladie, d'infirmité, face aux promesses, tiédeur et évasion du peuple de Dieu ou de certains, dont beaucoup n'ont plus le sens de l'Église locale en action, absence de vocation réelle qui se lève, totalement engagée dans tous les domaines de leur vie. Beaucoup sont appelés, mais les copains, les amis, un bon salaire, la femme, le mari, le désir du mariage, la convoitise des choses de ce monde, voire même les déceptions qu'on peut avoir et qui prennent le temps et la place de Dieu. Alors, conclusion. Si tu veux aller loin, si nous voulons aller loin, ça sera dans des choses très pratiques. Vous devez comprendre que dans votre vie, dans la mienne, il y a un appel au triage. Vous ne pouvez pas espérer accomplir votre vocation en passant par-dessus les exigences de Dieu. La grâce de Dieu nous aide à les accomplir. La grâce de Dieu ne nous évite pas de les accomplir. Alors, triage, un appel au triage, à l'attachement concret, permettez-moi de vous dire, pour un sacrifice réel, soit sur le terrain du temps, soit sur le terrain de l'argent, soit sur le terrain de nos priorités auxquelles nous sommes attachés. Vous connaissez dans Juges 7, les 7 premiers versets, Gédéon est attaqué, l'Israël est attaqué, il rassemble des gens, Dieu lui, ils sont beaucoup trop nombreux, et il fait le triage. Hein. Ceux qui ont peur, retournez, il y en a 22 000 qui partent. Dieu lui dit, c'est encore trop nombreux. C'est ceux, justement, je les amène au ruisseau, c'est ceux qui ont la paix, qui ne se sont pas installés, qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, sans même s'en rendre compte par leur attitude physique, étaient en éveil. 300 sur cette foule de gens. C'est avec eux que Dieu a fait les choses. N'oubliez pas, la masse n'a jamais accompli les grandes choses de Dieu. C'est ceux au sein de la masse qui ont accepté le prix du renoncement et d'être prêts. Dans Exode, chapitre 18, vous avez Jéthro, le beau-père de Moïse, qui voit Moïse juger le peuple du matin au soir. Tout le monde est fatigué. Moïse est fatigué. Les gens sont fatigués. Il y a la queue. Tout le monde devait sûrement râler là-dedans. Hein. Mais Jéthro lui dit, mais tu te rends pas compte ce que tu fais? Tu t'esquintes et tu esquintes les gens. Nomme responsable de 10, responsable de 50, responsable de 100, 2000, sur des gens. Et je termine en lisant ça. Donc, ça se trouve dans Exode 18, si vous avez vos Bibles. Exode 18, et on arrête là. Verset 13, c'est ceci. Maintenant, écoute ma voix, dit Jéthro. Verset 18-13, ben, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites choses ou causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout le peuple parviendra heureusement à sa destination. Dieu dit à Moïse, monte sur la montagne, prends 70 anciens, je mettrai de l'onction qui est sur toi, je la mettrai sur eux. Là, Jéthro lui donne un conseil que Moïse va mettre en pratique, c'est le principe du partage, c'est ce qu'on pourrait appeler du ministère, c'est le principe du partage du ministère d'une assemblée, c'est le principe du partage d'un ministère d'une communauté, et le but de Dieu, la raison d'être aussi de ces rencontres, c'est que se soulève au milieu de nous des hommes, des femmes, des jeunes gens et des jeunes filles, pour les jours qui viennent, qui puissent, avec ceux qui sont déjà en place, mais rappelez-vous, dans un élargissement que Dieu veut faire, porter la charge, développer, élargir et enrichir, parce que Dieu a mis en vous et en d'autres. Amen.
Nous espérons que ce message vous a plu et qu'il a été pour vous une véritable source de bénédiction. Ce message a été diffusé par le ministère enseigne-moi.com. Nous vous invitons à visiter notre site internet www.enseignemoi.com sur lequel vous pourrez écouter et commander des centaines de prédications. Que le Seigneur Jésus vous bénisse.